France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, on fait escale sur un enfer volcanique, Io, la lune la plus proche de Jupiter et la quatrième plus grande du système solaire. Plus de 400 volcans actifs, une centaine de montagnes. Comment expliquer les paysages spectaculaires de ce monde lunaire ? On ouvre notre collection « La science vous promet les lunes » et on embarque sur celle que l'on reconnaît à ses teintes jaunes et orangées. Découverte au XVIIe siècle et nommée d'après l'une des amantes de Zeus, Io est l'un des mondes les plus extrêmes du système solaire. D'immenses panaches de soufre et de magma peuvent y jaillir jusqu'à 500 km d'altitude. Ce sont les effets des gigantesques forces de marée de Jupiter qui torturent sa lune au point d'en déformer la surface solide. Pourquoi étudier cet environnement dantesque ? Io, souffre-douleur de Jupiter. Et Valérie Lenné, bonjour. Vous êtes astronome, directeur adjoint du laboratoire Temps-Espace, le LTE de l'Observatoire de Paris. Nous sommes en ligne également avec Nicolas André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, professeur en sciences planétaires à l'ISAE Supaéro, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Et nous sommes également en ligne avec Olivier Mouzis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme au Southwest Research Institute à Boulder, académicien à l'IAA, Académie internationale d'astronautique, et membre de l'Institut universitaire de France. Grand merci à vous trois d'être là avec nous, en direct, dans nos studios. Et puis merci à vous également d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Blue Sky at Science CQFD. Alors pourquoi étudier Io ? C'est aussi mieux comprendre la magnétosphère de Jupiter, le passé primitif de notre Terre et les secrets des autres lunes galiléennes. Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, j'ai Valérie Lenné, il faut décrire l'environnement très proche de cette lune, Jupiter. Quelle est cette étrange planète, la plus grande par la taille et la masse de notre système solaire ?
Oui, tout à fait. Donc Jupiter, je pense que beaucoup des auditeurs l'ont sans doute vu à l'œil nu. On peut la voir à l'œil nu, hein, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vraiment, je recommande qu'ils tentent l'expérience. C'est vraiment très facile à voir en ce moment, justement lorsque le soleil se couche, on la voit facilement dans le ciel. Donc Jupiter, bah, effectivement, 300 fois la masse de la Terre. C'est une planète essentiellement gazeuse, avec la roche et la glace en son cœur. Et cette planète, eh bien, accueille quatre grosses lunes, les quatre grosses lunes galiléennes, justement, dont on va parler. La plus proche s'appelant effectivement Io. Alors, également d'autres lunes plus éloignées, quelques lunes plus proches, mais c'est vrai que les quatre stars autour de Jupiter, c'est effectivement Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et donc, nous a parlé de Io essentiellement aujourd'hui.
Voilà, ces quatre stars observées pour la première fois en 1610 par Galilée, au moyen de sa lunette astronomique. Ce sont les premiers objets découverts par l'astronomie télescopique. Nicolas André, on peut rappeler l'importance justement d'Io dans l'histoire de l'astronomie.
Ouais, donc c'est une petite révolution. Quand Galilée, avec sa petite lunette, pointe vers Jupiter, il découvre avec surprise qu'il y a des objets qui tournent, il comprend qu'il y a des objets qui tournent autour de cette planète. Il les observe jour après jour, il note leur position dans le ciel et dans ce balai que font les lunes autour de Jupiter, il note qu'elles ne sont pas toujours à la même position. Et donc comme ça, il comprend en fait que la vision qui avait été admise pendant des siècles et des siècles que les objets tournaient autour de la Terre, mais elle était fausse. C'est vraiment la vision de Copernic qui prévalait, hein, à savoir qu'on n'était pas au centre de l'univers, mais que les objets pouvaient tourner autour d'autres objets et que la Terre tournait autour du Soleil. Donc c'est la première révolution avec ces observations, la preuve par l'observation. Et ensuite, c'est une petite lune qui a joué aussi un grand rôle dans pas mal d'autres pans de la science. Alors pour l'anecdote, on a utilisé le passage en éclipse de Io derrière Jupiter quand la lune ne devenait plus visible depuis la Terre. Connaissant le diamètre de la planète, on prédisait à quel moment elle devait réapparaître de l'autre côté. Et en notant le petit décalage temporel quand elle repassait en dehors de la zone d'éclipse, on avait compris que la lumière se déplaçait avec une vitesse finie, qu'on avait pu mesurer, estimer assez grossièrement, mais c'était quand même un exploit pour l'époque, à peu près 75% de la valeur communément admise et mesurée plus tard avec des moyens beaucoup plus sophistiqués. Donc voilà un peu pour la petite histoire. C'est un objet qui est une star en astrophysique, mais qui a joué aussi un rôle dans d'autres pans de la physique.
Et qui joue également un rôle, Olivier Moussis, dans, enfin, outre la planète, il y a aussi tous ces objets dans la sphère d'influence de Jupiter. C'est ce qu'on appelle le système jovien, qui est une composante majeure du système solaire externe.
Oui, absolument, parce qu'en fait, le cortège des lunes de Jupiter, les quatre principales lunes galiléennes, est vraiment remarquable. Nous avons ici quatre lunes de taille à peu près semblable, de taille à peu près similaire à celle de notre Lune qui orbite autour de la Terre. Et chacune de ces lunes recèle des caractéristiques qui sont vraiment assez uniques. Et en fait, ce qui est assez remarquable dans ce système, c'est la différence de composition d'une lune à l'autre. C'est-à-dire que la lune la plus proche, qui est donc celle de notre, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est Io, elle est entièrement rocheuse. Il n'y a pas de volatiles, il n'y a pas d'eau. Et plus on s'éloigne de Jupiter, plus les lunes s'enrichissent en eau. La deuxième lune est Europe, qui va être visitée par la mission américaine Europa Clipper. Cette lune regorge à peu près d'environ 10% d'eau. Elle aurait un océan caché sous la glace. Alors que Ganymède et Callisto, qui sont les deux lunes les plus extrêmes, les lunes galiléennes, elles ont 50% d'eau et de glace dans leur intérieur. Donc il existe un gradient de densité, si je veux parler un peu plus technique. Donc, plus on s'éloigne de Jupiter, plus les lunes sont glacées.
Et on reviendra évidemment sur cette question de l'hydratation de Io, de la présence, de la non-présence plus exactement d'eau sur Io. Mais alors, en tout cas, on a observé les éclipses de ces lunes galiléennes quasiment sans interruption depuis leur découverte jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est Pioneer 10 qui est la première sonde spatiale à survoler Jupiter en 1973. La planète est ensuite explorée par les sondes du programme Voyager jusqu'en 1979. Ce sont elles qui observent des volcans à la surface de Io.
La sonde américaine Voyager 1 est infatigable et elle ne cesse d'envoyer sur la Terre de nouvelles photos de Jupiter. Celles que vous allez voir maintenant ont été prises à 20 000 km de la surface de la planète. Elles ont passionné les savants du monde entier. Depuis que ces images sont arrivées, toutes les idées reçues sur Jupiter sont bouleversées.
Face à ces nouvelles photos extraordinaires de Jupiter, les scientifiques du monde entier doivent désormais oublier un certain nombre d'idées reçues et se refaire de la planète une toute autre image, beaucoup plus étrange et surtout d'une étonnante variété. Io, par exemple, un des quatre satellites de Jupiter, est une boule jaune-orangée avec des pics, des plaines et des vallées. Europe, elle est striée de longues zébrures brunes. Sur Ganymède, on retrouve des striures mêlées de figures spiralées brillantes. Sur Callisto, par contre, seulement quelques taches claires. En regardant ces images, un géologue américain a dû avouer « Le rythme auquel nous apprenons est terrifiant. Jamais nous n'aurions pensé que ces quatre satellites étaient si différents les uns des autres. Il nous faut maintenant expliquer ce mystère. » Un des mystères de Jupiter a été levé ce soir par le laboratoire américain de Pasadena. La sonde américaine Voyager 1 a permis en effet de constater la présence d'un anneau autour de la planète géante. Cet anneau de 30 km d'épaisseur est constitué de grosses particules qui mettent environ 7 heures pour effectuer une révolution autour de la planète. Une moisson de milliers de clichés qu'il faudra des mois pour dépouiller, des années pour qu'ils dévoilent une partie de leur mystère.
Voilà, le JT de France 3 en 1979. Valérie Lainé, pour la première fois, l'humanité a l'occasion d'admirer des éruptions volcaniques en dehors de la Terre, sur Io.
Oui, alors effectivement, ce qu'il faut se rappeler à l'époque, c'est que comme ces lunes étaient très loin du Soleil, on pensait trouver des objets froids, inertes. Et en réalité, on trouve justement des objets, d'une part, très variés, effectivement, et puis cette activité volcanique intense qu'on n'attendait pas du tout. Donc ça, ça a vraiment été une découverte. Alors, pour la petite histoire, les volcans sur Io avaient été prédits en 1978, un petit peu avant que la sonde Voyager 1 arrive autour de Jupiter, en faisant justement ce calcul des marées. Mais encore une fois, à cette époque-là, on pensait voir comme des objets très loin du Soleil, donc froids, peu actifs. Donc c'est vraiment une vraie surprise.
Voilà, on tombe sur ce volcanisme intense. Nicolas, André, on peut continuer à faire ensemble cette carte d'identité de Io et de ce à quoi elle ressemble.
Ouais, donc c'est cette petite lune soumise à ces effets de marée, elle va se déformer et il va y avoir du magma qui va s'échapper par des volcans comme on a sur Terre. C'est des échappements de soufre, de dioxyde de soufre qui vont s'échapper sur des centaines de kilomètres d'altitude. Une partie de cette matière fraîche va retomber à la surface de Io, va peindre cette surface en jaune, en orange, en brun, et une autre partie va s'échapper de l'attraction gravitationnelle de la petite Lune, et elle va se mettre en orbite autour de Jupiter. Elle va former ce qu'on appelle des tores de gaz neutres autour de Jupiter, qu'on peut observer depuis le sol avec des télescopes dans différents filtres.
Ah mince.
Et on observe donc.
On a eu peur de vous perdre dans un tore de gaz neutre, mais vous revoilà, Nicolas André, on est à votre écoute.
Ouais, donc ce tore de gaz neutre, on le voit depuis le sol. On l'observe par exemple au pic du Midi avec le télescope du 1 mètre. Et cette matière, elle ne peut pas s'accumuler indéfiniment dans le système de Jupiter. Elle est donc transportée à l'ensemble du système de Jupiter. Et donc cette matière soufrée, elle va s'écouler vers l'extérieur et elle va aller impacter la surface des autres lunes galiléennes, Europe, Ganymède, Callisto. Et en cela, elle va aller modifier la chimie, la composition de la surface de ces objets, en apportant une source de matière extérieure à ces systèmes. Donc cette petite lune, avec ses centaines de volcans actifs, elle va vraiment avoir un rôle majeur pour l'environnement global de Jupiter et pour les autres lunes qui orbitent autour de la planète.
Cette matière soufrée, justement, Valérie Lenné, c'est ce qui explique la particularité de sa couleur ?
Oui, tout à fait. On voit ces couleurs. Alors, ce qui est amusant, c'est que généralement, en astrophysique, on a des fausses couleurs. Donc, quand on regarde sur Internet, on n'est jamais certain. Mais dans le cas de Io, effectivement, ces couleurs jaune-orangées viennent effectivement des composés soufrés que vient de nommer Nicolas. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très caractéristique sur Io. Et quand on le compare, il faut penser, par exemple, à Europe, par exemple. C'est une lune de glace d'eau, essentiellement. Et effectivement, là, pour le coup, on la verrait blanche. Là, pour le coup, il y a souvent des fausses couleurs. Mais dans le cas de Io, effectivement, c'est très caractéristique, ces couleurs jaunes, oui.
On a cette caractéristique-là. En première approche, Io est très comparable en situation à notre Lune. Presque le même rayon, une distance à Jupiter à peine plus grande que la distance Terre-Lune. Mais la comparaison s'arrête vite, Valérie Lenné.
Oui, alors effectivement, c'est un très bon exemple. Le système Terre-Lune par rapport au système Jupiter-Io. Les distances sont à peu près les mêmes. La taille de notre Lune et de Io sont à peu près semblables. C'est vraiment, ça se ressemble beaucoup finalement. Si ce n'est que Jupiter est 300 fois plus massive que la Terre. Et évidemment, dans ce cas-là, Jupiter va lever des effets de marée beaucoup plus forts sur Io que la Terre sur la Lune. Alors je rappelle que les effets de marée sont un effet différentiel d'attraction gravitationnelle. C'est-à-dire que les poids matériels sur Io plus proches de Jupiter sont plus attirés que ceux qui sont éloignés. Ce qui va donner une déformation. Et cette déformation, avec l'orbite excentrique de Io autour de Jupiter, va donner une variation périodique, un forçage périodique à l'intérieur de Io, donc une variation de la déformation, et puis également, puisqu'il y a les déformations, il y a friction, il y a donc chaleur. Et donc les deux conséquences essentielles des effets de marée, ça va être une déformation et production de chaleur. Et production de chaleur, évidemment, on vient au volcanisme.
Eh bien, on va en parler dans quelques instants de ces effets de marée, mais pour compléter un peu cette carte postale de cette lune, de ce monde lunaire, Olivier Moussis, sur Io, on a aussi des températures de surface qui passent des extrêmes à l'autre.
Absolument, entre le jour et la nuit, il y a plusieurs centaines de degrés d'écart, et en fait, on peut même condenser de la glace sur le côté nuit. Donc, il y a un cycle de transport de volatiles d'ailleurs entre le jour et la nuit. Donc, parce qu'il y a des émissions aussi de volatiles avec les volcans, et de l'autre côté de l'hémisphère de Io, il y a de la condensation pendant la nuit. Donc, il y a des cycles, des alternances de condensation, sublimation sur la surface de Io, même si cette quantité de volatiles est négligeable comparé à ce qu'on voit sur les autres lunes. Donc effectivement, il y a une sorte de météorologie qui est assez exotique sur Io, qu'on a pu voir sur d'autres objets, d'ailleurs, hein, pas que sur Io, mais cette alternance de sublimation-condensation de volatiles a pu être observée. Et donc on voit du frost, de la glace sur le côté nuit. On voit ça sur certaines images, absolument, tout à fait.
Donc on a une température de surface qui passe de moins 193 degrés à 1720 degrés. Nicolas André, pour un habitant jovien, s'il existe, il y a aussi ce qu'on observe, nous, en tant que terriens, il y aurait une face cachée de Io.
Oui, alors si on était à la surface de Io, déjà on aurait beaucoup de mal à y être, hein. Vous l'imaginez bien, c'est un enfer. Et en plus, il y a un aspect qui est pas négligeable, que nos propres astronautes, qu'on envoie pas très loin de notre Terre, Sophie Adnaud en ce moment dans la station spatiale, il y a les particules énergétiques, des particules chargées, qui sont piégées par les champs magnétiques des planètes. Jupiter a le plus fort champ magnétique dans le système solaire de toutes les planètes, donc ça va piéger des particules chargées, leur donner beaucoup beaucoup d'énergie. Ça va créer ce qu'on appelle les ceintures de radiation, des environnements terriblement hostiles qui sont capables de traverser les électroniques, de traverser les tissus humains éventuellement et de les endommager. Et donc aller du côté de Io, c'est vraiment un challenge trop difficile à relever. Pour la plupart des missions spatiales, en effet, on essaye de pas trop s'en approcher. Quand on survole cette Lune, c'est avec précaution, en prenant ses distances et en se protégeant. Ce qui fait que les futures missions vont s'en tenir un petit peu éloignées. Olivier mentionnait Europa Clipper, il y a la mission européenne JUICE qui s'approche du système de Jupiter. Mais on va regarder Io de très loin pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais en la regardant de très loin, on comprend beaucoup de choses puisque c'est un petit peu la source de la matière dans ce système de Jupiter. Et donc, on peut déjà caractériser beaucoup de choses, même en se tenant à distance.
Alors, quels sont les volcans sur Io ? Pourquoi les effets de marée sont-ils si extrêmes sur cette Lune, pourtant aussi grande que la nôtre ? On y arrive, on chauffe.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Valérie Lenné, Nicolas André et Olivier Mouzis, nous parlons d'Io. La quatrième lune de Jupiter est l'un des mondes les plus extrêmes du système solaire Io, en référence à une prêtresse d'Héra et une des amantes de Zeus. On vient de voir qu'elle a été observée pour la première fois en janvier 1610 par Galilée, avec les autres satellites galiléens. Et c'est une découverte qui a favorisé l'adoption du modèle copernicien du système solaire. On vient de voir que son volcanisme est intense, on a un peu évoqué l'origine de ce volcanisme, mais peut-être d'abord, Valérie Lenné, faut rappeler comment fonctionne le volcanisme sur Terre.
Alors sur Terre, le volcanisme est lié évidemment à la... Alors il y a deux mécanismes essentiellement. Le principal, c'est la tectonique des plaques qui fait que lorsque vous avez deux plaques qui se rencontrent, vous allez avoir parfois une plaque qui peut passer sous l'autre. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des zones où effectivement le manteau va devenir liquide, va devenir ce qu'on appelle de la lave. Je rappelle quand même que le manteau terrestre, c'est vraiment essentiel, le manteau terrestre est solide. Il n'est pas liquide, on n'est pas assis tous sur un tapis de lave. Donc on est vraiment, le manteau est solide, il est fluide sur des échelles de temps géologiques. Donc c'est pour ça que quand on parle de convection du manteau, l'image souvent de l'eau bouillante, bon, ça c'est sur des échelles de temps géologiques. Et cette convection, effectivement, va favoriser le déplacement des plaques. Et effectivement, au voisinage des plaques tectoniques, eh bien, on va avoir l'occasion d'avoir du volcanisme. Donc ça, effectivement, c'est une des origines du volcanisme. Sur Terre, il y a une autre origine du volcanisme. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de point chaud. Donc ça va être plutôt en plein milieu d'une plaque, typiquement tectonique, où vous allez avoir des volcans qui vont se former parce que dans le manteau, vous aurez des anomalies thermiques. Donc vous aurez, eh bien, une source un peu plus chaude dans le manteau qui va remonter et qui, à ce moment-là, va produire un volcan. Et il se trouve que sur Io, c'est précisément ce volcanisme que nous avons et pas du tout le volcanisme tectonique.
Voilà, sur Io, c'est un volcanisme de point chaud, Nicolas André, mais qui se distingue quand même à celui du volcanisme de point chaud qui se passe sur Terre.
Oui, tout à fait. Donc ça, les images le révèlent bien. Si on observe la surface de Io en infrarouge, on voit ces points chauds qui se révèlent à nous. La surface en est parsemée. Il y a plus de 400 volcans qui sont actifs. Sur ces images, on peut voir des panaches s'élever de la surface et retomber et s'échapper. Donc c'est assez spectaculaire. Et ces volcans, et donc qui vont créer toute cette matière, ils sont actifs en permanence. Et à la différence du système Terre-Lune, Io orbite très proche de Jupiter, donc va faire un tour autour de la planète en à peu près 42 heures. Ce qui veut dire que la planète n'a jamais trop le temps de se reposer. Elle est tout le temps soumise à ses contraintes le long de son orbite légèrement elliptique, proche de Jupiter. Ses effets de marée gigantesques qui déforment sa surface sur plusieurs dizaines de mètres, qui vont permettre aux volcans de s'activer, et ben ils vont le faire en permanence. La Lune ne se repose jamais, elle est toujours en ébullition.
Et ça, ces effets de marée, c'est aussi ce qui, Nicolas André, déforme sa surface et même sa forme.
Oui, tout à fait. Sur cette petite orbite autour de Jupiter, un petit peu elliptique, il y a des endroits où vous allez avoir la surface de la Lune qui s'étire considérablement, qui se contracte à d'autres positions le long. Et ces variations de plusieurs dizaines, quelques centaines de mètres vont vraiment être assez originales pour cet objet. Il n'y a pas d'autre objet autant déformé dans le système solaire par ces effets-là. Et ce qui fait vraiment que cette activité volcanique, elle est permanente.
La surface de Io s'élève de quelques centaines de mètres, Valérie Lenné, ça laisse des images quand même assez extraordinaires dans nos esprits. Des oui. Bourrelets de marée, on appelle ça.
Oui, tout à fait. Alors en fait, bon, c'est vrai que les marées, c'est assez compliqué. Vous avez effectivement, de par l'excentricité de l'orbite, le fait que Io va être plus ou moins proche de Jupiter à chaque révolution, ce qui va donner cette variation de distance, donc une différence d'intensité des marées et donc une différence d'élévation, les fameux 100 mètres dont parlait Nicolas. Mais vous avez également le fait que comme l'orbite est excentrique, eh bien, Io ira plus vite autour de Jupiter lorsqu'il en est plus proche et moins vite lorsqu'il en est le plus éloigné. Ce qui fait que pour un observateur qui serait sur Io, sur le méridien origine qui viserait Jupiter, eh bien, en été, Jupiter se déplacerait d'un demi-degré d'un côté du méridien, puis d'un demi-degré de l'autre. Autrement dit, en plus de changer d'élévation de 100 mètres à chaque révolution, les bourrelets de marée se déplacent latéralement sur à peu près 15 km. Et cette variation de plus ou moins 15 km en plus des 100 mètres qui crée ce chauffage. Alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit que les deux composantes sont à peu près semblables. Hein, c'est-à-dire que ce soit la différence d'élévation de 100 mètres ou le déplacement latéral, les deux produisent à peu près la même quantité de chaleur à l'intérieur de par la déformation. Comme le disait également Nicolas, ce qui est vrai qu'une différence, je ne vais pas insister dessus, la distance entre Io et Jupiter est à peu près la même que celle de la Lune à la Terre, mais comme évidemment Jupiter est beaucoup plus massive, Io tourne beaucoup plus vite. Voilà. Donc effectivement, ce forçage qui plus est plus fréquent.
Et ce forçage qui provoque une forme plus arrondie quand Io quand Io est justement plus proche de Jupiter, c'est ça ?
Non,
c'est l'inverse.
C'est ça. Donc, oui. Plus vous êtes loin, évidemment, moins vous êtes tridimensionnel, et plus vous êtes proche, plus ces bourrelets de marée sont prononcés avec cette variation de 100 mètres que vous mentionniez.
Voilà, et justement, quand on est plus proche, on est en forme d'amande. C'est assez évocateur sur justement l'image de la puissance de ces effets de marée. Alors côté composition, on pourrait dire que Nicolas André, que par sa composition, Io est presque plus proche des planètes telluriques que les autres satellites du système solaire externe.
Oui, en particulier à ces distances du Soleil, on parle de lunes glacées, hein, pour les lunes de Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Ce vocabulaire convient pour Ganymède, Callisto, Europe. Mais pour Io, c'est différent. Io, en fait, n'est pas dans la même catégorie, hein, puisqu'elle est déformée par ses effets de marée, ce volcanisme. C'est pas du tout un corps glacé comme ses sœurs ou comme ses frères. Elle dénote par cette activité. Et c'est ce qui rend passionnant l'étude comparative de ces quatre objets. Quand on fait ce portrait de famille, ces quatre lunes viennent des mêmes régions du système solaire. Et pourtant, elles sont terriblement différentes. Et c'est ça qui est excitant de pouvoir les étudier de près.
Valérie Lenné, pendant un moment, on a aussi émis l'hypothèse d'un océan global de magma. Ça, c'est une hypothèse qui a été laissée de côté assez rapidement.
Récemment, dirais. Oui, il y a l'année dernière un article qui est sorti, je crois, dans Nature, qui effectivement a utilisé les données de deux fly-by de la sonde Juno, qui est passée très proche de Io, et grâce à ces deux rencontres proches, je m'excuse pour l'anglicisme, c'est grâce à ces deux rencontres proches, eh bien, on a pu mesurer l'impact des déformations de marée sur l'orbite de la sonde. Et ce faisant, en quantifiant justement l'amplitude des marées, eh bien, on a pu mettre de côté un océan de magma, en tout cas un océan de magma global, assez significatif. Alors, il restera peut-être une possibilité d'avoir un océan global fin, mais c'est vrai que pour l'essentiel, cette piste a été écartée l'année dernière.
En tout cas, sur la surface de Io, on trouve également une centaine de montagnes. Certains de ces sommets sont plus hauts que le Mont Everest, alors que le rayon d'Io est presque égal à celui de la Lune. Valérie Lenné, quels sont justement les volcans emblématiques de cette Lune-là ?
Alors vous en avez beaucoup, mais on peut pas tous les mentionner, mais on peut penser au volcan Pelé, par exemple, au Prometheus. Bon, vous en avez quelques-uns, effectivement, qui sont assez emblématiques. Certains qui ont, je crois que c'est Pelé qui fait 200 kilomètres, non, c'est Loki, pardon, qui fait 200 kilomètres de diamètre. Donc, effectivement, vous avez quelques volcans très, enfin, il y en a énormément, effectivement, quelques-uns très emblématiques. Donc, si je devais donner un trio, je dirais effectivement Loki, Pelé, Prometheus, mais il y en a beaucoup d'autres.
Nicolas André, sur vos volcans emblématiques d'Io?
Oui, mais c'est un petit peu les mêmes. Et ce qui est amusant, c'est quand on a une sonde qui s'approche et qui observe de loin cette petite lune, on regarde les images et on essaie de faire le jeu des différences pour savoir quel volcan a été actif entre les deux observations avec des panaches qui éventuellement auraient été émis et qui seraient retombés à la surface, modifiant ses propriétés. Donc c'est assez ludique à contempler et très amusant à étudier.
Voilà, et pour tout savoir sur le volcanisme extrasolaire, j'invite nos auditeurs à podcaster notre épisode Exovolcanisme, une science en pleine ébullition. Et maintenant, Io, on l'a dit, est l'objet du système solaire le plus pauvre en eau. Alors pourquoi certaines lunes galiléennes sont riches en eau et Io ne l'est pas? Comment peut-elle être si déshydratée? On y arrive. Come Down on Jupiter de The Auriel en direct sur France Culture, car nous parlons de la lune la plus proche de Jupiter, Io, et son environnement très hostile. On en parle avec nos trois invités du jour, Valérie Lenné, astronome directeur adjoint du LTE de l'Observatoire de Paris, Nicolas André, directeur de recherche CNRS à l'IRAP et professeur en sciences planétaires à l'ISAE SupAéro, et Olivier Mouzis, directeur de programme au Southwest Research Institute à Boulder, académicien à l'IAA et membre de l'Institut universitaire de France. On vient de parler des 400 volcans actifs de cette lune galiléenne, qui est un monde coloré, extrême, qui gravite autour de Jupiter. On l'a dit aussi, Io est la seule des quatre grandes lunes joviennes à ne pas avoir d'eau. Ganymède, Callisto, c'est environ 50% de glace. Europe, c'est environ 8% de glace. Et Io, elle n'en a pas du tout. Alors, où est passée l'eau? Eh bien, je me tourne vers vous, Olivier Mouzis. Ça nous ramène à la question de sa formation, finalement.
Et oui, c'est exactement. C'est un cas qui est représentatif des conditions de formation. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer l'eau sur les lunes de Jupiter qui aurait été acquise après la formation. Il faut que ce soit un mécanisme qui soit disons antérieur à leur accrétion. Et donc, il y a eu pas mal d'études hein, depuis plusieurs décennies sur ce sujet. C'est un sujet qui a passionné tout le monde. Depuis ces images Voyager qui ont confirmé qu'effectivement qu'il y avait un gradient de densité et que l'eau était plus en plus abondante en allant de plus en plus loin de Jupiter. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que alors, quand on forme les lunes de Jupiter, comme on l'a évoqué plus tôt, elles évoquent comme un mini-système solaire. Et c'est ce mini-système solaire qui a été observé par Galilée, qui lui avait fait remettre en question ce paradis que tout tournait autour du Soleil. Et donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, les lunes de Jupiter se sont formées dans un disque qui est analogue à la nébuleuse primitive, la nébuleuse protosolaire dans laquelle se sont formées les planètes du système solaire. Et ce disque qui est autour de Jupiter, il a résulté, de la dernière étape de la formation de Jupiter, c'est-à-dire que Jupiter elle a probablement un noyau solide. Et lorsque ce noyau a eu une masse suffisamment importante au moment de son accrétion, eh bien, lorsque cette masse a été suffisamment importante, il y a eu donc du gaz de la nébuleuse protosolaire qui est tombé sur Jupiter et qui a formé 90% de sa masse en un éclair de temps. Le noyau de Jupiter a mis plusieurs millions d'années à se former. Et l'enveloppe de Jupiter a mis seulement plusieurs milliers d'années à se former. 95% de la masse de Jupiter a été formée pendant ces quelques milliers d'années. Eh bien, lorsque l'enveloppe de Jupiter s'est accrétée, il y a eu donc un disque qui s'est formé, un disque aplati, qui résulte de la fin de la formation de Jupiter. Et dans ce disque sont formées les lunes de Jupiter. Alors, plusieurs scénarios pour expliquer les lunes de Jupiter et leur gradient de densité. L'un d'entre eux, c'est l'accrétion de matériaux de solides qui sont faits à la fois d'un mélange de roche et de glace, et ces solides auraient, disons, migré au travers du disque de Jupiter, et plus ces solides se rapprochaient de Jupiter, plus le disque était chaud, et bien ces solides perdaient leur volatile. Et donc, naturellement, comme ça, on pouvait expliquer que la lune interne de Jupiter était accrétée à partir de matériaux rocheux et appauvris en eau, alors que Europe était entre les deux zones, chaude et froide, donc elle avait gardé un petit peu de glace au moment de son accrétion. Par contre, les lunes externes, que sont Ganymède et Callisto, elles auraient donc gardé les platésimaux, enfin les solides, ils auraient gardé la composition qui avait été acquise au départ dans la nébuleuse primitive. Donc en gros, Ganymède et Callisto sont des corps qui seraient a priori un peu plus primitifs que Io et Europe.
Olivier Mossy, vous avez copublié une étude qui va dans ce sens dans The Astrophysical Journal que dès sa formation, Io aurait été déshydraté.
Et oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas expliquer une déshydratation de Io par des mécanismes post-formation, c'est impossible. C'est-à-dire que même les effets de marée qui étaient évoqués par Valérie, ces effets de marée-là ne sont pas suffisamment puissants pour pouvoir éjecter une grande quantité d'eau si celle-ci avait été acquise au moment de sa formation. La seule solution que l'on ait, c'est d'avoir accrété Io à partir de solides appauvris en eau. Et donc, ça a été l'objet de plusieurs études qui avaient été faites par mon équipe. Et aujourd'hui, c'est clair, pour nous, Io est un satellite qui s'est formé sec et déshydraté. Et cette déshydratation n'a pas été le résultat d'une évolution après sa formation. C'était impossible.
Nicolas André, justement, sur la déshydratation de ce monde lunaire.
Ouais, donc c'est quelque chose d'assez remarquable parce que nous, planétologues, on a besoin de et on a envie de trouver des environnements où on trouve de l'eau, hein, puisque c'est un des quatre ingrédients principaux pour rendre un monde habitable éventuellement. Je les rappelle un petit peu, il faut la présence d'eau, la présence de molécules complexes autour de ce qu'on appelle les schnops, les molécules de carbone, d'azote, d'oxygène, etc. Une source d'énergie. Alors nous, sur Terre, on a le Soleil qui n'est pas trop loin, hein, et ça nous fait du bien. Jupiter et ses lunes, il n'y a pas du tout de Soleil, il est quand même trop distant. Mais par contre, il y a ces effets de marée qui amènent de l'énergie. Hein. Et la quatrième condition, bah, c'est un peu d'être dans un environnement stable, protégé. Hein. Alors sur Terre, on a le champ magnétique qui nous protège un peu des colères du Soleil. Ces mondes-là, les lunes de Jupiter, elles sont protégées aussi par le champ magnétique de Jupiter, qui est tellement puissant que la cavité qu'il creuse dans le milieu interplanétaire est si grande que toutes ces lunes sont situées très à l'intérieur de cette cavité. Et donc, elles sont également protégées donc des effets du Soleil. Mais par contre, il y a un effet négatif, c'est que ce champ magnétique va donner beaucoup d'énergie aux particules chargées qui sont piégées à l'intérieur du système. Ça va créer ces ceintures de radiation très intenses qui vont, avec leurs particules très énergétiques, déposer de l'énergie et modifier la chimie dans ces environnements. Mais donc, pour en revenir à l'eau, donc c'est un ingrédient indispensable pour que l'émergence de la vie. On sait qu'il y en a sous la surface de certaines lunes, y compris Europe, Ganymède, notamment autour de Jupiter. Il y en a d'autres autour de Saturne ou des autres planètes géantes. Mais Io, elle n'en a pas. Et donc, ça fait un élément assez singulier, encore une fois, dans ce paysage, du fait de cette propriété.
En effet, vous évoquez le champ magnétique de Jupiter, qui est unique dans le système solaire. Il est immense. C'est probablement le champ magnétique le plus puissant du système solaire, à l'exception de ce qui se passe sur la surface du Soleil lui-même. Olivier Mouzis, justement, quelle est l'influence de ce champ magnétique sur Io?
Alors, le champ magnétique de Io, de Jupiter sur Io, a pour conséquence de drainer des particules émises par les volcans, donc les particules ionisées, elles se ionisent et donc ces particules suivent ce champ magnétique et elles sont comment dirais-je, drainées à une vitesse qui est colossale, à plusieurs kilomètres par seconde peut-être, dans certains cas, plusieurs centaines de mètres à minimum. Donc ce sont carrément comme des balles de fusil qui sont entraînées par ce champ, par cette dynamo autour de Jupiter. Et imaginez ce que disait tout à l'heure Nicolas, donc un vaisseau spatial qui traverse ce champ magnétique avec ses particules à haute vitesse, le blindage du vaisseau spatial ne dure pas longtemps. Donc ça veut dire il y a un effet d'abrasion qui est monstrueux, qui fait qu'au bout de quelques orbites, 2-3 orbites peut-être, le vaisseau spatial est totalement détruit. Je vais revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de l'eau, parce que l'eau c'est quelque chose qui est très singulier, parce que je vais être un petit peu provocant, on ne sait pas si l'eau était omniprésente dans le système de Jupiter au départ. L'eau dans Jupiter, on ne sait pas s'il y en a en quantité industrielle ou pas. On ne sait pas. Il y a eu la mission Galileo qui est allée vers Jupiter, où il y avait une sonde de rentrée qui a été lancée dans l'atmosphère de Jupiter. On n'a pas pu mesurer l'eau correctement. Le but originel de la mission Juno, ça a été de mesurer l'eau dans Jupiter. Elle n'y est pas arrivée non plus, pas réellement. Et du coup, est-ce que les lunes de Jupiter se sont formées pleine d'eau au départ, même Ganymède et Callisto? Est-ce que les solides accrétés par ces lunes étaient riches en eau au départ? Ce n'est pas garanti. Il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent d'expliquer la formation des lunes de Jupiter, de Io à Callisto, en expliquant donc ce gradient de composition en eau par l'accrétion de roches seulement, de la roche hydratée. Et cette roche hydratée dans le disque autour de Jupiter aurait perdu son eau, justement, parce que dans une roche hydratée, elle peut avoir environ jusqu'à 10% d'eau. Et cette eau aurait pu être réaccumulée au niveau des orbites de Ganymède et Callisto, et ce qui aurait pu expliquer leur plus grande richesse en eau. Mais ce n'est pas dit qu'au départ, le système de Jupiter était riche en eau. On ne sait pas, en fait. C'est une grande question. Et la question est valable aussi pour le système de Saturne. Est-ce que les lunes de Saturne se sont accrétées dans un environnement qui était riche en eau? On ne le sait pas. Et plus les études avancent, plus on se rend compte que l'eau n'était pas si omniprésente dans le système solaire. Pas tant que ça.
Une grande question qui, en effet, sera au cœur des prochaines missions. On va l'entendre dans quelques instants. Prochaines missions qui vont continuer à enquêter sur le système jovien. Je reviens sur, justement, à l'importance de la magnétosphère de Jupiter sur Io. Nicolas André, vous avez évoqué tout à l'heure, justement, ces phénomènes intéressants que sont le tor de plasma de Io ou encore le tube de flux de Io. On peut peut-être encore un peu rentrer dans le détail de ces deux phénomènes-là et de ce qui se passe dans l'atmosphère de Io.
Oui, donc Jupiter, avec son champ magnétique très intense, elle crée une cavité dans le milieu interplanétaire qu'on appelle la magnétosphère. Cette cavité, elle est gigantesque. Si on pouvait la visualiser dans le ciel à tout instant, la rendre visible, elle occuperait un diamètre apparent largement supérieur à celui de la Lune, tel qu'on peut le voir depuis la Terre. Donc c'est vraiment un objet immense, gigantesque, colossal, sur plusieurs unités astronomiques. Et en plus, il est enflé parce que la petite Lune Io, elle va créer de la matière à l'intérieur de cette magnétosphère. Cette matière qui ne peut pas s'accumuler indéfiniment, elle est redistribuée à l'ensemble du système et elle fait gonfler un petit peu comme un ballon cette magnétosphère, lui donnant des proportions encore gigantesques. Cette matière également qui est émise par les volcans de Io, elle va être ionisée. Une fois qu'elle est ionisée, elle est piégée par le champ magnétique de Jupiter, elle va gagner de l'énergie et éventuellement elle va pouvoir précipiter le long des lignes de champ magnétique. Il y a un couplage électrodynamique entre la Lune et l'atmosphère de Jupiter qui fait que ces particules vont précipiter et aller impacter l'atmosphère de Jupiter où elles vont créer des aurores boréales. Comme sur Terre, vous avez des aurores boréales dans l'atmosphère de Jupiter. Alors Jupiter, il y a beaucoup plus de types différents d'aurores boréales. Il y a des aurores qui sont liées à l'interaction avec le Soleil, avec les perturbations du Soleil, comme sur Terre, très polaires. Il y a des aurores qui forment ce qu'on appelle un ovale principal permanent, qui est toujours présent, qui est relié à cette redistribution de matière depuis le Tordeillot dans le système de Jupiter par des mécanismes, des instabilités. Et enfin, vous avez ces petites précipitations de particules le long de ce qu'on appelle les tubes de flux, les lignes de champ magnétique qui couplent la Lune avec l'atmosphère de Jupiter, et là où les particules précipitent et vont aller former ce qu'on appelle des empreintes, en anglais des footprints, des pieds, d'émissions aurorales, qui se matérialisent pour toutes les lunes de Jupiter, le pied de Io, le pied d'Europe, le pied de Ganymède et le pied de Callisto, qu'on a découvert récemment en ultraviolet. Et donc ces aurores spectaculaires, vous pouvez les voir de manière permanente dans le système de Jupiter.
Des aurores boréales joviennes, waouh! Bon alors maintenant, quelles sont les futures missions pour l'étude d'Io? On poursuit avec le reportage du jour. La Lune Io n'est pas la cible principale des missions d'exploration du système jovien et des autres lunes de Jupiter, mais la présence de sondes spatiales va offrir des occasions inédites pour cribler sa surface et mieux comprendre le paysage volcanique de la dantesque Io. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée à l'IPGP qui est impliquée dans la construction d'instruments qui pourra cartographier les surfaces lunaires.
Oui, c'est ça, dans le cadre de JUICE, mission de l'ESA, la sonde emportera une dizaine d'instruments pour analyser les surfaces mais aussi les atmosphères des lunes joviennes et même y déceler la chimie endémique. Parmi ces instruments, il y a MAGIS, un spectromètre hyperspectral qui profitera du survol autour d'Io pour la cribler dans le visible et l'infrarouge. Le planétologue Sébastien Rodriguez, qui a travaillé sur sa conception, nous explique son fonctionnement et ses prouesses déjà fournies par les survols terrestres avant accostage en système jovien en 31.
On est à l'IPGP dans notre laboratoire, ici au 7e étage du bâtiment Lamarck. C'est l'équipe de planétologie et sciences spatiales qui est ici.
Et vous compulsez toutes les mesures qui seront récoltées.
Voilà, en partie. Donc on fait partie d'une grande équipe. Il n'y a pas qu'à l'IPGP qu'on regarde les données JUICE et MAGIS, mais on en fait partie. Et voici mon bureau. Voilà, je vous y invite. Donc voilà la sonde JUICE. Et MAGIS est sur la plateforme, quelque part, sur la plateforme de télédétection. Quelque part devant.
Quelles sont ses caractéristiques et dimensions et instruments?
Alors, MAGIS, c'est un instrument assez impressionnant. Donc on voit ses dimensions, hein. Oui, ça fait 80 cm sur 60, et il fait plus de 20 ou 30 kilos, je sais plus exactement. C'est un très très gros instrument. En fait, ça paraît lointain, l'arrivée et les premières observations de MAGIS dans le système de Jupiter. Mais en fait, on est en ce moment même, je viens de quitter une réunion, où on commence à parler du planning des futures observations. En tout cas, on s'entraîne à préparer le planning, le calendrier, quel instrument va observer quel objet, dans quelle géométrie, etc., etc., sur quel intervalle de temps, etc., etc. Et du coup, on parle aussi de Io. On va avoir des opportunités. On essaie de créer des opportunités pendant toute la phase orbitale de JUICE autour de Jupiter. Donc la toute première partie de la mission JUICE, on essaie de créer des opportunités pour observer aussi toutes les lunes possibles à longue distance. Alors à longue distance.
Parce qu'on va pas trop s'approcher non plus pour des effets.
Pour des histoires tout simplement d'orbitographie. Voilà, l'orbitographie, elle est surtout focalisée sur des survols rapprochés, donc d'Europe 2, et surtout Ganymède et Callisto.
Et la bonne nouvelle, c'est que MAGIS a fourni des preuves d'efficacité, de performance remarquables. Là, vous avez prépublié une étude qui montre son bon fonctionnement en survol de la Terre.
Oui, alors c'est soumis, hein, c'est pas encore accepté. Effectivement, on a eu un survol extraordinaire conjointement de la Lune et de la Terre en août 2024, et on a pu réanalyser toutes ces observations. Ça nous a servi à de très 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 nombreuses choses. Dans un premier temps, à estimer si tous les instruments, et en particulier l'instrument qui m'intéresse, MAGIS, avaient des bonnes performances, les performances attendues, et si ces performances, comme elles avaient été estimées avant le décollage, n'avaient pas été dégradées au moment du décollage et puis pendant la première partie de sa phase de croisière. Et là, pour le coup, les performances sont excellentes, on a été rassurés. Et en plus, on peut faire aussi un tout petit peu de science, puisqu'on a observé avec des instruments extrêmement performants la surface de la Lune et l'atmosphère et une partie de la surface. Enfin, c'était essentiellement de l'océan, un petit peu au niveau de l'Indonésie, puis après dans le Pacifique.
Alors là, ici, on est à l'IPGP. Oui. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Parce que les mesures seront récoltées là-bas. Comment se fait la communication des informations jusqu'au traitement et l'acheminement?
Comment ça arrive jusqu'à mon bureau? Donc les données arrivent au centre opérationnel, essentiellement, donc à Darmstadt. Et puis ensuite, c'est réparti, c'est envoyé dans chacune des équipes de chacune des instruments qui ont leur propre serveur. Et puis après, nous, on récupère les données dans notre bureau. Qu'on soit, si on est partenaire, si on fait partie de l'équipe scientifique d'un instrument en particulier, eh bien on récupère ces données après jusqu'à notre ordinateur personnel.
C'est incroyable. Accès, bah oui. Et ça a traversé entre le système
Jupiter,
jovien et votre bureau ici.
Oui, oui. Alors ça aura mis un peu de temps pour arriver, et puis après ça aura été validé, ça aura été pré-traité, ça aura été etc. jusqu'à ce que ça arrive ici, pour que ça soit analysé par tout le groupe de tous les collègues scientifiques.
Alors, lors de ces survols transitoires, quel instrument on va mobiliser?
Alors, ça dépend de la distance à laquelle on se trouve des lunes que l'on va survoler. Il va y avoir deux familles d'instruments qui vont être un petit peu en compétition au départ. Et puis après, ça va être optimisé. Mais il y a les instruments, évidemment, de ce qu'on appelle les instruments de télédétection, qui vont observer, qui vont créer des images dans des longueurs d'onde différentes, pour pouvoir caractériser la géologie de la surface, mais aussi la composition. Donc les atmosphères, les surfaces, tout ça avec des instruments de télédétection, donc des imageurs, des spectrographes, des spectro-imageurs, etc., etc. Ça peut aller de l'ultraviolet jusqu'aux longueurs d'onde quasiment millimétriques radio. Et puis il y a aussi des opportunités quand on s'approche de pouvoir, il y a un laser, altimètre. Et aussi, on est en compétition de temps en temps, on va essayer d'optimiser
tout ça.
Et pour relever le relief. Donc, en ce qui concerne NUO en particulier, ça va être surtout les instruments de télédétection qui vont être utilisés. Et de loin, alors on n'aura pas une très très belle résolution spatiale de quelques dizaines à plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de résolution. Donc, on ne va pas résoudre vraiment la géologie. Mais par contre, sur NUO, ce qui va être intéressant de loin, ça va être de voir côté nuit et même possiblement côté jour, des points chauds et les associer après à des régions volcaniques actives sur Io et de les cartographier, de les répertorier, de les identifier. Alors on en connaît déjà plusieurs centaines, mais déjà les réidentifier, les recartographier et peut-être en découvrir de nouvelles pendant toute la durée de la mission.
À titre plus personnel, est-ce que vous attendez à des surprises?
Alors on va avoir accès à vraiment un domaine spectral très détaillé. Donc peut-être la découverte de nouvelles molécules qu'on ne s'attendait pas, qui sont liées au volcanisme très intense de Io, et donc une chimie assez complexe, hein, une chimie à l'intérieur des centres volcaniques, mais aussi la chimie après dans les atmosphères, les panaches volcaniques, etc., etc. Ce sont des chimies très complexes, donc on n'a peut-être pas encore découvert toutes les molécules. Et notamment, on a des molécules qu'on a découvertes qui s'échappent de Io et qui forment un tore de molécules autour de Io.
Un préanneau.
Comme un anneau, mais de molécules et d'ions autour de Io. On a découvert des atomes qui pourraient venir de molécules qu'on n'a pas encore découvertes sur Io et qui pourtant sont associées à Io. Donc, découvrir de nouvelles molécules qui nous donneraient donc plus de renseignements sur la chimie qui a lieu et sur le type de volcanisme et aussi la composition à l'intérieur de Io, c'est super important pour comprendre sa formation.
Merci Céline Lozen. Nos reportages qui nous font sortir du studio pour découvrir le travail de la recherche scientifique en cours. C'est notre collection La Science au Labo. Et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Olivier Moussis, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, écoutez, très intéressant l'intervention de Sébastien. Alors, je dirais une chose, et là, Nicolas pourra enfoncer les clous. Le MAGIS, c'est un instrument infrarouge qui va vraiment analyser en détail les caractéristiques géologiques des surfaces. C'est un instrument phare de la mission JUICE. C'est l'un des principaux instruments. J'insisterai aussi sur le fait qu'il y a une suite d'instruments qui est sur JUICE qui s'appelle PEP, Particular Environmental Package, et c'est une suite d'instruments qui fait de l'analytique, de la mesure analytique. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la mesure in situ des particules qui sont émises par les volcans de Io. Et ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir mesurer à la fois la composition de la partie volatile, si c'est, grâce au spectre de masse qui est sur PEP, mais aussi il existe un détecteur de poussière qui va pouvoir quantifier, mesurer la composition de la partie réfractaire. Et ça, c'est super intéressant parce que pouvoir amener un instrument de chimie analytique vers l'environnement qu'on souhaite étudier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a été le cas au départ pour Rosetta. La mission Europa Clipper, qui va orbiter aussi autour de Jupiter, qui va faire des survols proches d'Europe, a une suite d'instruments qui est à peu près analogue. Il y a un spectre de masse, il y a aussi un détecteur de poussière. Et donc, on a les mêmes instruments sur les deux missions. Ça pointe l'importance de ce type de mesures. Et je pressens des découvertes assez extraordinaires qui seront faites grâce à cet instrument sur JUICE.
On a hâte, Europa Clipper qui va atteindre le système jovien qu'en avril 2030, lui aussi, peu de temps avant la mission de JUICE, prévue arriver sur place autour de 2031. Votre écoute, vous aussi, Nicolas, André, votre réaction à l'écoute de ce reportage?
Ouais, faut déjà se rendre compte que des missions comme JUICE, on a beaucoup de chance d'en avoir. C'est une mission vraiment très ambitieuse qui va pouvoir répondre à un grand nombre de questions autour de la planétologie, l'étude des planètes et des objets du système solaire. Et c'est aussi une mission qui nous a occupés pendant des dizaines d'années. On l'avait proposé avec la communauté scientifique il y a à peu près 20 ans. Elle a été acceptée, étudiée par l'Agence spatiale européenne, puis construite. Alors nous, à Toulouse, on a eu de la chance. Elle a été construite par Airbus, qui se trouve juste à côté de l'ISA et Supaéro. Donc j'ai pu la voir dans ces salles blanches en construction plusieurs fois. C'est toujours émouvant. Et ensuite, on vient d'être lancé, il y a 2 ans. Et on attend encore, il faut être encore patient, quelques années avant d'arriver et d'avoir vraiment les données dont on a rêvé depuis pratiquement une demi-carrière. Et c'est la première mission dont on peut être fier en tant qu'Européen. C'est la première mission qui aussi va se mettre en orbite autour d'une des lunes de Jupiter. On va terminer notre vie en se mettant en orbite autour de Ganymède. C'est la plus grosse lune du système solaire. Elle est même plus grosse que la plus petite planète du système solaire, Mercure. Et donc on va avoir la chance de se mettre en orbite autour de cette lune, qui est une lune qui possède elle-même son propre champ magnétique. Et on va pouvoir l'étudier sous toutes ses coutures. Donc avec une mission, on va survoler les gros objets du système de Jupiter, les lunes galiléennes. On va étudier le système de Jupiter dans sa globalité. Et on va étudier une de ces lunes, la plus grosse, également sous toutes ses coutures. Donc ça fait vraiment une mission passionnante, au-delà de ce qu'on aurait pu rêver quand on l'avait proposé.
Ganymède qui sera aussi une prochaine escale de notre collection lunaire. Mais à votre tour, Valérie Lainé, de nous offrir votre réaction à l'écoute de ce reportage.
Alors j'entends l'enthousiasme de Sébastien Rodriguez que je partage parfaitement. C'est vrai que c'est important de rappeler que ces missions qui arrivent, dans le cas effectivement de JUICE en 2031, en réalité, c'est fait de nombreuses années que nous travaillons dessus, même beaucoup plus, effectivement, comme le rappelait Nicolas, puisque on a soumis des propositions comme Laplace, par exemple, qui sont un peu le précurseur de JUICE. Et c'est vrai qu'on travaille, les équipes travaillent beaucoup. Donc il y a une dizaine d'instruments sur JUICE et chacune des équipes associées aux instruments travaille d'arrache-pied pour que cette mission soit un succès. Personnellement, je suis particulièrement impliqué sur la caméra visible qui s'appelle Janus. Donc, on va aussi avoir des images en visible naturellement. Et on va observer Io naturellement. Et donc, même si la résolution ne sera pas extraordinaire, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut quand même, grâce à ces observations, caractériser le mouvement orbital, notamment de Io. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'origine énergétique, d'où vient l'énergie de ces volcans, d'où vient l'énergie des marées, ça vient de l'énergie orbitale. L'énergie orbitale de Io, en fait, c'est la source d'énergie de cette chaleur qui est produite. Et à partir du moment où vous créez de la chaleur à l'intérieur par marée, eh bien, vous prélevez cette énergie sur l'orbite. Ce qui veut dire qu'en regardant le mouvement orbital de Io autour de Jupiter, eh bien, on va pouvoir quantifier les marées globales dans l'intérieur de Io.
Ça fait aussi partie encore des questions scientifiques qui restent en suspens.
C'est-à-dire qu'on a publié en 2009 un article dans lequel nous montrions qu'on devait être proche de ce qu'on appelle l'équilibre thermique, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de chaleur qui est évacuée à la surface de Io qu'il en est produit à l'intérieur au même moment. On a quand même effectivement un certain nombre de barres d'erreur. On a aussi des modèles qui doivent être affinés, notamment les fameuses marées dont Jupiter. On n'en a pas parlé, mais en réalité, tout objet massif qui a un volume en réalité dans l'univers se déforme par marée sous l'action d'un champ gravitationnel d'un autre. Donc Jupiter aussi subit des marées levées par les lunes, notamment Io. Et donc tout ça, c'est un système extrêmement complexe. Et Europa Clipper et Juice sont des missions qui vont nous aider évidemment à peaufiner tout ça, à mieux comprendre.
Voilà, et pour conclure, parce qu'avec Olivier Moussy et vous-même Valérie Lenné, il y a eu la mission, enfin le projet de la mission Io Volcaner Observer, Ivo, où vous avez participé hein, pour que cette mission voit le jour, mais ça c'est jamais passé parce que c'est trop difficile de vendre une mission sur Io finalement.
En fait, si vous voulez.
Enfin, c'est vraiment et pour conclure, et je me tournais vraiment en deux mots, parce qu'on est vraiment à la toute fin de cette émission.
Oui, alors, vous l'aurez noté, que ce soit Juice ou Clipper, aucune des deux missions n'ira explorer de près Io, voilà. Donc pour des raisons de blindage. Et IVO, la mission dont vous parliez, c'est un projet qui était dédié à l'exploration de Io. Et pour l'instant, le problème, c'est que on va avoir beaucoup de données grâce à Juice, grâce à Clipper, grâce à Juno. Est-ce qu'une mission, disons, uniquement dirigée vers Io est finançable? C'est une grande question qui reste toujours débattue dans la communauté scientifique.
Et bien en tout cas, merci. Un grand merci à vous trois de nous avoir fait voyager tout de suite. On revient sur notre bonne vieille Terre et plus exactement dans les profondeurs océaniques. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Comment les poissons des profondeurs font-ils pour voir dans la pénombre? Tout au fond de nos yeux, sur la rétine, se trouvent des photorécepteurs. Ce sont des neurones un peu particuliers qui réagissent à la lumière. Ils sont chargés de convertir l'information lumineuse en information électrique. Et chez les vertébrés, donc chez nous, les humains, mais aussi les autres mammifères, les amphibiens, les reptiles et les poissons, il y a deux catégories de photorécepteurs. D'un côté les cônes et de l'autre les bâtonnets, chacun ayant un rôle bien précis. Fanny de Busserolle est chercheuse à l'Université du Queensland en Australie et cofondatrice de l'organisation caritative People for Nature.
Nous avons les bâtonnets et ces cellules, elles ont une forme longiligne et elles sont spécialisées pour la vision en faible luminosité, donc plus la vision nocturne. Les cônes sont adaptés à percevoir la lumière de forte intensité, donc la lumière du jour, et aussi à percevoir les couleurs. Chez les vertébrés, qui sont actifs le jour, ils vont avoir principalement des cônes qui vont favoriser la vision pendant le jour. En revanche, les animaux qui évoluent plus dans des contextes nocturnes ou des milieux très sombres, comme les grands fonds ou des grottes, ils vont, eux, avoir perdu ou réduit leurs cônes au profit des bâtonnets. Maintenant, dans le contexte de l'évolution de la rétine et de la vision, en général, les cônes apparaissent en premier dans le développement de l'animal et les bâtonnets un petit peu plus tard.
Et c'est d'ailleurs ce qui se serait passé dans l'évolution. Les cônes seraient apparus d'abord et puis les bâtonnets ensuite. Mais que se passe-t-il quand la lumière n'est ni trop forte ni trop faible, qu'elle est un petit peu entre chien et loup? On sait que les vertébrés sont globalement assez mauvais pour voir au crépuscule parce que ni les performances des cônes ni celles des bâtonnets ne sont optimales. Pourtant, il y a bien des organismes qui vivent en profondeur. Comment la vision est-elle adaptée pour voir dans une sorte de lumière intermédiaire permanente? C'est en cherchant à répondre à cette question que cette nouvelle étude parue dans Science Advances a mis le doigt sur une étrangeté de l'évolution. Le Pearlside, de son vrai nom scientifique Morolicus mucronatus, ne possède ni cône ni bâtonnet et en même temps un petit peu des deux. Il porte des photorécepteurs hybrides, la morphologie d'un bâtonnet avec la fonction interne d'un cône. Ce qui est intéressant, et c'est le cœur de l'étude, c'est que ce poisson qui vit à 200 mètres de profondeur dans la mer Rouge est pourvu de ces photorécepteurs très particuliers dès son plus jeune âge.
Ça a ouvert une autre façon de penser parce que on savait que on avait des cônes, on avait des bâtonnets, puis on savait que dans le mode de développement de la vision des vertébrés, on avait d'abord des cônes et puis plus tard les bâtonnets arrivent. Et là, on trouve une espèce qui a directement une cellule hybride entre les deux. Et donc là, on se dit, voilà, c'est la beauté de la nature où il n'y a rien qui est fixe, tout est fluide et extraordinaire. L'adaptation à l'environnement, je trouve, est assez fabuleuse. Et pourquoi on a une cellule hybride? Nous, on pense que c'est justement pour être le mieux adapté à l'environnement. Quand on est une petite larve qui est toute jeune, sans défense et qui doit quand même trouver à manger, de quoi se nourrir pour pouvoir se cacher des prédateurs, la vision est un des sens qui est très, très important.
Ces chercheurs et chercheuses parlent de photorécepteurs transmutés, des cellules dont la forme et l'identité moléculaire ne correspondent pas tout à fait. Cela remet en question le dogme initial selon lequel l'évolution a vu émerger d'abord les cônes et puis plus tard les bâtonnets, et ce n'est pas la seule exception de la nature. L'étude rapporte que le poisson lumineux et le poisson lanterne portent tous les deux ces cellules hybrides à l'état de larve, mais contrairement au pearlside, qui reste aux mêmes profondeurs crépusculaires toute sa vie, ces deux autres espèces plongent ensuite très profondément. Elles ne conservent à l'âge adulte que les bâtonnets, bien plus utiles pour voir quand il y a vraiment très peu de lumière. Alors, est-ce que ces cellules hybrides se sont transformées? Est-ce qu'elles ont disparu? Ce sont les prochaines questions ouvertes. L'enjeu est d'aller découvrir d'autres exceptions de la nature, avec néanmoins une grande limite méthodologique. Pour l'instant, on ne sait pas élever ces poissons des profondeurs en laboratoire. Il faudra donc retourner les pêcher.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Loïc Dutoit, Louise Ormond, CJ. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique. Aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.